Nous avons l'immense chance de pouvoir enregistrer en public chez nos amis de la Compagnie du Code, et nos amis de l'association de rétrocomputing Silicium ont désigné un membre pour nous parler du BASIC. Le choix fut fait par tirage au sort avec la fameuse fonction RAND, et nous sommes donc avec Benoît Triquet, spécialiste de la programmation temps réel dans l'embarqué pour l'aéronautique, membre de l'association Silicium, et sélectionné au hasard par la méthode décrite ci-dessus pour me répondre au coquin de sort. Ceci est la première partie de l'interview axée sur le langage basique. La seconde partie sera diffusée la semaine prochaine. CPU carré petit utile. Benoît, pour commencer, quel a été ton premier contact avec le langage basique ?
Ça remonte à nos chers ordinateurs du plan calcul. J'ai ce vague souvenir, je sais pas.
Attends, du plan calcul?
CP.
Celui de De Gaulle?
Oh là là. Du plan informatique pour tous.
Ah d'accord, les années 80, ouf.
Du plan informatique pour tous. Alors je sais plus si c'était en CP ou quoi. Et à l'école municipale publique, il y avait des machines qui avaient été portées pour une espèce d'exposition. Et donc, on pouvait toucher le clavier. C'était même pas un cours, hein. C'était juste pour toucher un petit peu, puis il y avait quelques explications et des gens qui montraient un peu. Je sais pas, j'avais 6 ou 7 ans.
Et quand t'es-tu arrêté sur le basique ?
Ben, j'en ai fait encore hier soir, histoire de préparer un petit programme que j'ai amené sur l'ordinateur ancien que j'ai amené, donc je me suis jamais vraiment arrêté.
C'est un jeu, hein, d'ailleurs.
Oui, un petit jeu.
On en parlera justement dans la deuxième émission. Est-ce que tu t'amuses encore, donc, à faire des petits programmes en basique ? Parce que ça, tu m'avais dit qu'en plus, c'était un exercice. Donc tu l'avais fait il y a un bail.
Celui-là, en fait, c'était leur après la première prise de contact qu'on a évoquée, je sais pas, 2 ans peut-être plus tard comme ça, il y avait des cours du soir au lycée professionnel de la ville où j'étais en école primaire, et donc j'étais allé apprendre le basique sur un nano-réseau, toujours avec du Thomson, toujours du plan informatique pour tous, et je me souviens pas de tous les détails de ce qu'on faisait faire, mais la culmination de ce cours du soir en fin d'année scolaire et au début des grandes vacances, c'était d'écrire un petit jeu sur un MO5, et j'ai refait ce jeu avec un basique un peu plus moderne sur un Atari, histoire de...
Voilà, donc c'est une course dans un labyrinthe avec les mêmes défauts que Tron, c'est-à-dire qu'on a une traînée derrière qui est dangereuse. parlons donc du langage lui-même. Que signifie l'abréviation basique ? Alors, je mets la traduction anglaise hein, pour les sous-titres. Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code.
C'est évidemment un backronyme, c'est-à-dire que déjà à l'époque, le but c'était d'utiliser le mot basique, c'était pas de décrire quelque chose de clair avec l'acronyme. Projet qui remonte au Dartmouth College aux États-Unis, c'était dans les années 60, et c'était pour faire quelque chose de plus abordable que ce qu'il y avait comme langage disponible à l'époque, Fortran ou alors du langage machine.
Ou Algol ou ce genre de choses. Je vois pas la difficulté, enfin... Tout le monde parle en assembleur maintenant. Qui a créé le BASIC ? Je parle des 2-3 créateurs d'origine.
Alors, John Kemeny et Thomas Kurtz, enseignants donc, au Dartmouth College, et qui évidemment, comme toujours, en fait, ont rien fichu d'autre que donner des indications et des ordres aux étudiants. Hein, donc, c'est surtout des postdocs qui ont écrit l'implémentation.
Et la note comptera pour l'examen final.
Exactement.
D'accord. De quel concept et langage, en fait, ce basique s'était inspiré ?
Alors là, j'étais obligé de réviser quand même. Ils avaient fait des expérimentations au Dartmouth College. Ils s'étaient intéressés apparemment au langage abordable pour les débutants, pour les non déjà professionnels et futurs professionnels de l'informatique. Ils avaient fait un truc qui s'appelle le Dartmouth Simplified Code et un autre qui était le Dartmouth Oversimplified Programming Experiment, DOPE.
Et ils ont encore simplifié.
Et donc ensuite, surtout, ils ont quand même profondément repompé les concepts de Fortran, mais avec une syntaxe plus abordable et surtout avec l'interactivité et le fait de pouvoir mettre plusieurs utilisateurs sur la même machine.
On va en parler justement après du fait que c'était prévu pour un environnement partagé. Mais en fait, au Dartmouth College, qu'est-ce qu'ils ont comme ordinateur pour le faire tourner ?
Alors, ils ont fait leur première version sur une machine de General Electric, GE225. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que au lieu d'être condamné à rentrer des cartes perforées et récupérer le résultat sur carte perforée en batch, c'est-à-dire on lance tout un programme, on récupère un résultat à la fin, ils avaient des télétypes. Alors un télétype, ça ressemble à un ordinateur moderne, sauf qu'il n'y a pas d'écran, il y a juste une imprimante.
C'est une machine à écrire électrique et donc on tape.
Et donc on a une ligne à la fois. Et à partir de ça, on comprend bien le lien avec les numéros de ligne pour être capable de s'y retrouver. puisqu'on pourra jamais afficher le listing à l'écran et naviguer avec un curseur. Donc, mais c'était quand même interactif.
Ouais, donc ils avaient déjà une machine plutôt évoluée quand même. Pour
oui, et en plus, leur GE, apparemment, étant multi-utilisateur, avait plusieurs ports pour connecter plusieurs terminaux en même temps avec plusieurs personnes.
Oui, parce que j'ai cru comprendre que la première exécution basique, c'était aussi la première démo d'utilisation d'un ordinateur en temps partagé, donc avec des gens qui font tourner des programmes différents.
En tout cas, c'était très tôt. Leur espèce d'OS, si on peut appeler ça un OS de l'époque, là, le DTSS, c'était l'un des premiers connus ayant fait du temps partagé. Et évidemment, il fallait pas que ça crache, puisque c'était tout le monde en même temps sur une machine qui évidemment n'avait aucune protection, de toute façon vu les processeurs à l'époque.
Ouais.
Donc il y avait aussi
fallait
un intérêt
pas trop
à avoir
faire
un
d'allocation de mémoire ou quelqu'un qui fasse une boucle infinie. Quoi. Ouais.
Donc d'où l'intérêt d'un langage interprété où on peut toujours tout péter. Mais ceci dit, la première implémentation en fait c'était quand même un compilateur. Donc mais un compilateur avec une interaction devant la console, un truc qui compilait à la volée.
Ah ouais. Déjà pour l'époque.
Alors que les implémentations après sur les ordi plus classiques, les 8 bits qu'on a connus, c'est
les
pures.
Parce que là, on parle de 64, et si je me souviens bien, le premier compilateur, c'est 62, un truc comme ça.
Ah, ben, l'Algol 58, c'était compilé, les Fortran, c'était 60 aussi. Le premier Fortran, c'était des langages compilés, c'était ce qui venait après du pur langage machine. Après, la notion de compilation, c'était un peu particulier à l'époque, parce que t'avais pas de disque. Même la bande magnétique, c'était pas pour tout le monde. Donc, en fait, t'avais ton code source sur des cartes perforées ou une bande perforée, et tu chargeais une première bande ou une pile de cartes avec le code machine du compilateur ou donc de l'environnement basique. Et puis tu chargeais ton listing avant le télétype. Tu chargeais ton listing et puis en fait ça le compilait en mémoire et c'est l'exécuté direct. Tu stockais pas le résultat, il y avait pas encore de linker. Et donc là la machine avec le télétype, l'intérêt, la nouveauté, c'était le côté interactif, la possibilité de rentrer son programme au fur et à mesure et d'avoir le résultat immédiatement sans avoir faire des cycles et des allers-retours entre le puncher là où on perforait les cartes et l'ordinateur à proprement parler.
Oui, parce que je disais tout à l'heure en COBOL aussi tu peux faire la même chose, mais en fait c'était prévu, tu mettais d'autres cartes perforées avec les numéros de lignes que tu patchais, c'était pas prévu justement pour du télétype, enfin pas au départ. Et en fait écrire un programme avec des numéros de lignes, c'était relativement récent. Ah mais attends, mais je viens de réfléchir qu'en fait COBOL a été créé après le basique, je suis bête.
Il y a des numéros de ligne en Fortran qui précèdent de quelques années. Mais parce qu'il leur fallait un moyen d'adresser les lignes. D'abord, ça permettait de faire une distinction simple entre le mode direct, le mode immédiat, où on rentre des commandes, elles sont exécutées tout de suite, et on peut pas utiliser toutes les instructions. Il y en a qui ont pas de sens en exécution immédiate. Et la partie qu'on veut stocker pour le programme qu'on est en train de composer. Mais surtout, faut pouvoir réafficher des fragments du petit programme sur l'imprimante du télétype en demandant liste 10-50, pas lister tout le programme, et puis surtout aussi pouvoir modifier des fragments du programme. D'où ce que tu disais pendant l'introduction, pouvoir réentrer un numéro de ligne et le nouveau texte qu'on veut. Dans ces premières versions pour télétype, il devait pas avoir l'édition de ligne où tu pouvais réafficher une ligne et remodifier le contenu de la ligne. Tu re-rentrais la ligne entière. Mais pas tout le programme, c'est quand même un problème.
Alors, j'étais tombé sur des manuels de mini ordinateurs d'entreprise IBM du début des années 80, et apparemment, à l'époque, en entreprise, on utilisait autant le basique que le COBOL pour faire du développement rapide, pour monter en fait rapidement des petits projets, genre calcul de feuilles d'imposition ou exonération fiscale, montage financier passant par des paradis fiscaux.
L'avantage, c'est que tu as l'interactivité, plus le fait que c'était fait pour traiter des nombres au début et puis après un peu de lettres, mais purement du texte. Mais tu pouvais éventuellement plotter un graphique si tu faisait des X et des espaces sur ton imprimante pour dessiner ligne à ligne. Mais l'avantage du langage, c'était donc son côté interactif pour pouvoir éditer, bricoler, changer son algorithme sans passer par une phase de compilation fastidieuse. Et puis, alors après, au fur et à mesure des années, ils ont quand même rajouté de la gestion de fichiers, etc. Mais surtout, les gens du Dartmouth College, là où ils étaient un peu clairvoyants... Alors, à cette époque-là, on n'attachait pas encore de la valeur commerciale au logiciel. C'était le temps machine sur l'ordinateur qui coûtait cher. L'énorme ordinateur qui coûtait des centaines de milliers de dollars, si c'est pas des millions. Et où l'université, qui l'avait payé fort cher, facturait le temps à tout le monde. Et donc, le basique, il était à disposition avec la machine.
C'était le cas au CICT encore dans les années 90, à la fac de Rang, je m'en souviens.
Et donc, Les deux auteurs, là, les deux profs, eux, ils le diffusaient, il était à disposition avec les machines de la fac, mais eux, ils ont essayé de le diffuser le plus largement possible, ils ont distribué de la documentation, du code, et du coup, comme c'était pas très dur à implémenter, ça a été vite implémenté sur plein d'autres machines. De toute façon, c'était courant sur les gros ordis de l'époque d'avoir une dizaine de langages différents qui venaient avec la machine.
Oui, à l'époque, on vendait du conseil et tout ça, mais le langage, c'était le bonus, quoi, pour dire, attention, vous allez pouvoir faire des trucs avec, vous allez voir, c'est génial.
Bien entendu, des langages tous incompatibles entre eux, on pouvait pas écrire un programme à cheval dans plusieurs langages, ils pouvaient même pas forcément manipuler des fichiers du même format, de même disque, de même bande.
Et même entre modèles, du même fabricant, le langage n'était pas forcément le même. Vous écoutez CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Nous sommes avec Benoît Triquet de l'association Silicium depuis la Compagnie du Code pour parler du langage BASIC. Le BASIC a très peu d'instructions de base. Je crois que vraiment sur les BASIC des machines 8 bits, il y en a très peu qui dépassent les 60 instructions, hein, en gros. Limiter le vocabulaire de ce langage est une contrainte technique ou une volonté by design?
Il y a une contrainte technique au sens où il fallait que ça rentre sur les premières machines dans vraiment pas beaucoup de RAM ou pas beaucoup de ROM parce que la mémoire était extrêmement onéreuse. Il y a aussi clairement, notamment dans l'idée initiale du Dartmouth College, une volonté pas du tout technique mais bien de faire un langage facile à apprendre et donc il faut qu'il puisse être décrit en pas beaucoup de mots. Après, 60 mots-clés, quelque part c'est énorme comme vocabulaire, 60 actions différentes. Rappelle-toi les jeux vidéo, aventure, quelques actions et puis c'est réglé.
Alors, on va faire un petit tour de la syntaxe du BASIC. Dedans, on a des variables numériques et des variables de chaîne. C'est deux principaux types de variables. Il n'y a pas de booléen, il n'y a pas de nul, il n'y a pas de pointeur et tout ça. Les noms de variables commençaient par le caractère $. On avait aussi un sacré nombre de fonctions de manipulation de chaîne. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est que même, je crois qu'il y en avait plus que d'autres langages contemporains.
Ouais, moi aussi, ça m'a marqué. C'est vrai que c'était assez surprenant. Alors, le dollar, il était à la fin des noms pour les distinguer des nombres à virgule, d'ailleurs, qui n'avaient pas de suffixe du tout. Et il y avait des basiques assez pauvres en chaîne de caractères. Les tout premiers n'avaient pas du tout de chaîne de caractères, mais tu prends l'AppleSoft basique, l'Integer basique d'un Apple II, le basique original écrit par Woz, t'as pas $1000. Donc c'est pas facile de savoir les caractères au milieu d'une chaîne, mais dans les basiques un peu plus raisonnables, ceux des MO5 et TO7 de Thomson, nos Amstrad et compagnie, tu pouvais regarder les caractères au début d'une chaîne de caractères avec $, ceux du mille, la position que tu veux au milieu de la chaîne avec $, et ceux de la fin avec $. Puis au passage, c'est un bon moyen d'apprendre l'anglais, parce que quand t'as 8 ans, tu sais pas ce qu'ils veulent dire ces mots.
Ah bon? Enfin, pour nous, les Français, hein, les anglophones, c'était autre chose.
Et puis, l'autre truc que tu pourrais faire à des chaînes de caractères, c'est stocker de l'information. Parce que dans les vieux premiers basiques, t'as pas de tableau. T'as rien, en fait. Donc, le seul truc qui permet de stocker plusieurs morceaux d'information les uns à côté des autres, c'est une chaîne de caractères.
Ouais, DIM et tout ça, ça arrivait bien après.
C'est après. Donc, tu peux stocker tes niveaux de tes petits jeux d'action, tes pages écran, tu peux stocker tes fragments de parcours dans un labyrinthe, etc., dans une chaîne de caractères dont tu vas ressortir les morceaux à coup de $1000.
Un de mes souvenirs douloureux en basique, c'était la profusion de Goto. En SWAT, c'était une initiation à la programmation spaghetti.
Exactement.
C'est pas
un langage structuré. Hein.
Ouais.
Et pourtant, l'idée existait déjà de langage structuré. Bon, ben, basique, c'était pas un langage structuré. Là, on était vraiment dans les contraintes techniques, je pense, et le fait que ça devait marcher sur un télétype, donc il fallait pouvoir adresser les lignes avec leur numéro. Il aurait pu avoir des étiquettes, mais des étiquettes avec un nom.
Ça arrivait après.
Ça, c'est bien après, dans des basiques ultérieures. Donc là, on est quand même vraiment dans les contraintes techniques et la simplicité au départ, je pense.
On a des commandes. Alors, data pour mettre des suites de données, restore pour en fait indiquer au pointeur de revenir au début, read pour récupérer les données justement qui a été stockées dans data. C'est en gros une petite particularité parce qu'il y a peu de langages avec ce système de pointeur avec des données prédéfinies quoi.
Ouais.
Pas souvenir qu'il y en avait d'autres qui avaient ça quoi.
Alors, dans d'autres langages, tu te débrouillerais avec des fichiers ou tu initialiserais des bouts de mémoire, on t'aurait des tableaux. Là, il n'y a pas de tableau et puis en fait, il n'y a pas toujours des fichiers. Quand tu as un ordinateur avec un magnétocassette, tu n'as pas de fichiers. Alors, parfois, tu peux, dans certaines de ces implémentations, faire open et puis il faut remettre le magnéto en lecture pour lire la suite. Enfin, c'est pas commode. Donc, c'était pratique d'avoir des données sur lesquelles le programme pouvait travailler directement dans le code source du programme. C'est aussi pratique, au passage, quand tu l'imprimes dans un magazine.
Oui, ça, c'est clair. PIC et POC sont dans un bateau. Ces deux instructions permettaient de jouer directement avec les adresses mémoire.
Ouais.
Là aussi, je crois pas que j'ai vu ça dans d'autres langages.
Alors c'est toujours pareil, ça dépend de quel langage tu parles. En assembleur, évidemment, tu travailles toujours avec des adresses.
Ouais,
si
ouais.
tu utilises les langages compilés, machines natives de l'époque, en C, c'est normal aussi de manipuler les adresses, mais le C, c'est bien postérieur au basique.
Ouais, mais tu l'as pas en logo, tu l'as pas en Pascal,
alors,
tout ça.
En logo, langage de haut niveau, en Pascal, si. En Pascal, peut-être pas le tout premier Pascal original, mais un Pascal à peu près moderne, tu as des pointeurs à peu près équivalents de ceux du C. Mais en Fortran, t'avais pas ça. En Fortran, t'avais des grands tableaux, tu faisais des tableaux de nombres et tu te débrouillais indexer tes tableaux avec des index stockés dans d'autres tableaux. Tu faisais de la gestion mémoire dynamique avec des tableaux en Fortran.
Ouais, là, tu n'as pas le même fun pour taper dans les adresses des processeurs du petit 8 bits. Quoi.
Mais le problème, c'est qu'avec des PIC et des POC, tu risques de planter ta machine puisque tu sors de l'interpréteur. Et la raison d'être de PIC et de POC,
c'était tu la plantes, justement... C'est facile, hein.
Oui. Mais la raison d'être, c'était surtout de pouvoir faire...
Il y a même un bouton reset dessus.
C'est de pouvoir faire ce qui n'était pas prévu par l'interpréteur. Tu pouvais taper directement dans les registres du matériel et faire des actions qui n'étaient pas prévues dans l'interpréteur. Il y en avait même qui avaient poussé ça un peu loin, Commodore, avec le Commodore 64. Ils avaient tellement pas eu le temps de sortir un basique digne de ce nom et ils avaient tellement pas envie de repayer Microsoft pour relicencier le basique Microsoft du VIC 20 vers le Commodore 64.
Oui, parce qu'en fait, c'était un portage.
Aucune... Oui, ils ont repris le basique du VIC 20. Et donc, ils ont enlevé les commandes du VIC-20 qui faisait un peu de graphisme et ils ont laissé les gens se débrouiller avec la documentation à coups de PIC et de POC pour faire du son et de l'image parce que sinon, il aurait fallu qu'ils payent plusieurs dizaines de milliers de dollars à Microsoft. Donc, dans ce basique-là, t'es bien content d'avoir PIC et POC. Il y a des basiques plus raisonnables et plus user-friendly.
Oui, celui du ZX Spectrum, par exemple.
Le Spectrum,
c'est peut-être pire.
Le Spectrum, il a un truc intéressant... comme le ZX80, pour économiser de la ressource et de la mémoire, c'est qu'il est tokenisé, mais dès l'édition. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle de tokenisation et d'implémentation ?
On peut, on a le temps. On a le temps. Parce que on a parlé justement de programmes qui étaient compilés avec les lignes de commande.
Et,
si je me trompe, le Basic Integer de WOS aussi utilise la tokenisation.
Microsoft est tokenisé.
Donc, on va peut-être expliquer justement, parce qu'on parle d'interpréter.
Oui.
Interpréter, en fait, donc c'est repérer une structure dans une ligne. Ce qui est, ah, ça, c'est tel mot, ça fait appel à ça et tel truc.
Il y a deux sens au mot interpréter. Le premier, c'est effectivement, il va bien falloir comprendre la ligne de chiffres et de lettres, avec un numéro pour chaque caractère qu'on rentre dans la mémoire de l'ordinateur. Et après, le mot interpréteur dans l'interpréteur basique, ça vient ensuite de la manière dont il exécutera plus tard ce qu'il aura mémorisé. Mais si on revient au moment où l'ordinateur comprend ce qu'on a saisi, ça, en français, ça s'appelle du parsing. Et donc, il faut reconnaître des lexèmes comme un nombre qui est une série de chiffres, ou donc un nom d'une instruction du basique, comme print, P-R-I-N-T. Et donc, quand l'ordinateur voit ces lettres-là, il y a deux techniques possibles pour implémenter notre interpréteur basique quand plus tard il voudra exécuter le programme. Soit il stocke littéralement ces lettres successives en mémoire, et quand on fera run, bah, il réanalysera ces lettres pour comprendre à quel mot qu'il connaît déjà ça correspond, ou faire syntax error. Mais, on voit bien que c'est un peu idiot à chaque run, à chaque fois qu'on repasse sur une ligne dans une boucle, de la re-analyser lettre à lettre. Et donc, une manière plus intelligente de stocker le programme, c'est de stocker juste un seul numéro, un seul chiffre, par commande qu'on a reconnue. Donc, il y aura un numéro dans un octet de la mémoire pour la commande print, un numéro pour goto, un numéro pour if, pour faire un test, et ainsi de suite.
Donc, ça veut dire que si jamais, on a écrit print en minuscule, non, on l'aura après au listing en majuscule.
Parce que quand l'ordinateur réaffiche le listing avec la commande list, il doit faire l'inverse. Il balaye une mémoire dans laquelle il y a des tokens, des jetons, et il doit remettre le bon mot. Et du coup, il se rappelle pas des détails, distinction minuscule, majuscule, il se rappelle pas des blancs en général, ça dépend des implémentations, il se rappelle pas des blancs entre les mots et les arguments des mots, et éventuellement les commandes successives d'une même ligne. Et tout ça, ça économise de la mémoire, et ensuite, quand on exécute le programme, l'exécution a juste à choisir l'action pour un seul chiffre qui sert de sélecteur de l'action exécutée. Ça va beaucoup plus vite que s'il fallait réanalyser la chaîne de caractères complète. Et donc, dans le Spectrum et le ZX81 surtout, qui n'avaient qu'un kilooctet de RAM et pas beaucoup de ROM pour stocker l'interpréteur, ils avaient poussé un peu le vice à ce que, quand on rentre un listing, chacune des touches du clavier rentrait directement une instruction. Donc, au passage, le Basic ZX81, il y a 26 instructions. Parce que jusqu'à nouvel ordre, il y a que 26 lettres dans l'alphabet. Donc, faut faire avec ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein, on peut faire plein de choses en 26 instructions. Et donc, dès qu'on tapait une touche, on avait directement le mot qu'on voulait que s'affichait,
que
ça va beaucoup plus vite.
En passant par le modifier.
Alors oui, tu pouvais quand même rentrer aussi des chaînes de caractères, entre guillemets, ou rentrer des chiffres, heureusement. Mais donc, tu avais une couche du clavier qui te permettait de rentrer directement les mots-clés, et le Spectrum avait le même principe. Tu rentrais directement tes mots-clés sans taper P-R-I-N-T pour print.
Et puis tant mieux vu le clavier en question.
Ouais, le clavier à la gomme ou le clavier à membrane sensitive. Ceux qui en France ont été confrontés au TO7 premier du nom ou au MO5 avec son clavier en caoutchouc, ils ont encore mal au bout des doigts.
C'est là que je me rends compte que j'avais une machine qui était plutôt... J'avais de la RAM et j'avais un clavier pas pourri.
Début de clavier vaguement mécanique.
Ouais, quand même.
Pas trop dur.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Benoît Triquet de l'association Silicium, depuis la Compagnie du Code, pour parler du langage basique. Et on est revenu dans l'art des 8 bits, c'est trop génial. Et d'ailleurs, justement, à propos de 8 bits... Quand est arrivé le premier micro-ordinateur avec BASIC intégré ?
Alors, apparemment, c'est l'Altaïr. Alors, les Américains, ils disent Alter parce que ils savent pas parler arabe. Donc, cet ordinateur-là n'avait pas de clavier, pas d'écran, juste des petites clés en façade.
Un peu comme le tout premier micro conçu en France, quoi.
Ouais, comme le Micral. Et des loupiottes pour voir ce qui se passait. Alors, on pouvait quand même brancher, enfin, avoir une carte terminale, brancher un écran supplémentaire. Et donc, Microsoft. Microsoft, créé par Paul Allen et Bill Gates, qui se cherchaient des trucs intéressants à faire. Ils avaient des gros ordinateurs à l'université et ils avaient cet Altaïr fait par une petite boîte de Seattle appelée MITS. Albuquerque.
Et donc, sous le contrôle de Maître Capello. René Speranza qui vient donc de remettre en place ce pauvre Benoît.
Poseur de chef. Et donc, l'Altaïr, c'était un ordinateur à monter soi-même en kit, sur lequel c'était mieux d'avoir des programmes à exécuter. Et Microsoft avait produit un interpréteur basique qui tenait dans les 4 kilos de RAM de la machine. Il devait pas rester beaucoup de place pour écrire le programme. Et ça, c'est sorti en 75, cet interpréteur basique. Apparemment, c'est le premier sur un truc qu'on pouvait appeler un micro. En même temps, un micro-ordinateur, ça venait juste d'être inventé.
Ouais. D'ailleurs, l'Altaïr, ça m'a surpris, mais j'ai vu qu'il y avait, il y avait beaucoup de gens qui mettaient dessus une petite carte graphique, et un petit terminal dessus, c'était plutôt véloce hein, quand même pour l'époque. C'était pas une machine trop ridicule. J'ai cru comprendre aussi quand même que Paul Allen et Bill Gates s'étaient fait taper sur les doigts à l'université parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils utilisaient leur ordinateur pour des raisons commerciales et c'était pas prévu que ça soit interdit dans le règlement.
Et toujours malin, ils avaient trouvé l'astuce juridique. Ils ont développé ça en utilisant... Donc, dans l'Altaïr, il y a un processeur, le premier processeur Intel du 8 bits, non, le deuxième, le 8080, qui vient après le 8008. Et ils avaient écrit un émulateur de ce processeur qu'ils faisaient tourner sur le PDP-11, le TPDP-10 de l'université. Et donc, ils n'avaient pas l'ordinateur en vrai. Et puis, d'un autre côté, ils pouvaient voir ce qui se passait dans le dos du processeur émulé. C'est l'intérêt d'un émulateur pour mettre au point leur basique. Et donc, ils avaient fait ça sur le matériel de la fac.
Et d'ailleurs, après, ce qu'ils ont fait, en fait, leur basique... Enfin, ils avaient fait une espèce de compilateur de basique où on pouvait choisir les options qu'on voulait et ils avaient un émulateur. Et après, ils louaient du temps machine sur des mini pour pouvoir le tester, c'est ça ?
Et ils ont fait plusieurs versions successives de leur interpréteur. En fait, le premier, il était super primitif. Sur pareil, hein, dans les 4 kilos de la mémoire de l'Altaïr, il faut rentrer l'interpréteur lui-même et puis laisser un peu de place pour rentrer le programme. Donc, leur interpréteur, il avait que quelques instructions pour faire de l'arithmétique. On avait le GoSub pour pouvoir quand même faire des sous-programmes. Ça permettait de réutiliser des fragments de code. Il n'y avait pas de chaîne de caractères. Il y avait juste des variables numériques. Et puis les variables, c'était de A à Z, et puis de A0 à A9, jusqu'à Z0 à Z9. C'était une lettre ou deux lettres, les variables. Et il y avait que des nombres à virgule. Donc, c'était intéressant par rapport à juste faire du langage machine où tu te serais débrouillé avec tes octets de 8 bits. Mais c'était quand même super limité comme machine. Et ils ont fait un BASIC étendu qui prenait deux fois plus de mémoire, où là, il y avait des chaînes de caractères et quelques commandes en plus. Et puis après, ils ont fait un super BASIC encore plus étendu, 12 kilo-octets, qui doit correspondre à la base notamment de l'AppleSoft BASIC de notre Apple II qui occupait aussi 12 kilo-octets de ROM.
Et d'ailleurs, dans les liens documentaires justement de cette émission, on a trouvé le programme qui crée en fait le programme Microsoft basique. C'est-à-dire, on déterminait quel CPU on voulait, quelle taille de ROM était prévue. Et donc, si on voulait des instructions trigonométriques ou non, des chaînes de caractères et tout ça, même les messages d'erreur étendus ou seulement des numéros de messages d'erreur et tout ça, c'est archéologiquement, c'est passionnant, ça ferait chier n'importe quel gosse, c'est magnifique. On m'a dit que dans une des démos, mais alors c'est beaucoup plus ultérieur, hein, c'est du GW basique, il me semble. On a un exemple de listing écrit par Bill Gates, je crois que c'était dans le jeu Banana, banana.bas. On m'a dit que c'est très peu glorieux point de vue qualité de code. Que Bilou, quand même, il ferait mieux de s'occuper des toilettes sèches.
Alors, moi, je connaissais pas cette histoire. Je l'ai pas retrouvé, celui-là. Quand j'ai regardé, je suis tombé sur le donkey.base, un autre listing à Bilou.
Oui, mais je crois que c'est celui-là, pardon. Je dis une bêtise. Celui-là.
Et alors, honnêtement, j'ai regardé un peu ce listing parce que donc, il y a eu de l'archéologie. Merci les obsédés de la conservation américains. On a apparemment, il n'y a pas si longtemps, retrouvé le listing original où il y a encore des messages de lui en vrai basique à numéro de ligne, hein, pas les portages en quick basique qui traînaient ultérieurement dans les distributions de démonstration de Microsoft. Et, bon, il est pas si immonde que ça, ce listing. Je l'ai regardé rapidement. Il est juste emblématique de son époque. C'est-à-dire que fallait faire danse. Il n'y avait pas de commentaires. Toutes les variables du programme, c'est des noms d'une lettre. Et donc, faut suivre la logique. C'est-à-dire que c'est un peu du langage à écriture seule, hein. C'est-à-dire que si tu veux comprendre ce que fait le programme, entre les numéros de ligne, donc le côté pas structuré, pas indenté et les variables incompréhensibles, ta seule chance, c'est en gros de tout réécrire sur un grand, grand, grand papier. Et de reconstituer la structure des boucles et de renommer, de redonner la fonction des variables. Sinon, c'est standard pour l'époque, je trouve.
Et honnêtement, j'ai vu du code produit par Woz pour son Integer, dans son langage Integer basique.
Oui, alors lui, hein, c'est technique de programmation machine pour économiser des instructions et se resservir de routines.
Je parle même pas de comment il écrivait Integer basique, hein. Je parle d'un programme en Integer basique qui était, déjà, c'est ouf. Apparaît qu'il y a un bug dedans. Là, j'ai pas envie de m'y mettre. Il y a des points virgules partout pour faire des multilignes. C'est un petit peu affreux. Et d'ailleurs, justement, sur Apple II, quelles étaient les différences entre l'Integer basique et l'Apple Soft basique? D'ailleurs, l'Apple Soft basique, on a parlé de l'Integer, mais Apple Soft basique, qui l'a produit?
Alors, l'Apple Soft basique, c'est celui qu'Apple a acheté à Microsoft. C'est donc une instanciation du Microsoft basique pour le processeur 6502 qu'on retrouve dans l'Apple II, qu'on retrouve dans le Commodore 64 et le VIC-20 et d'autres ordinateurs populaires parce que c'était un processeur vachement pas cher, bien moins cher que les autres chips sur le marché. Et l'Integer basique, c'est le premier basique qu'on a sur le premier Apple II, là, les premières cartes sorties en 76, et il a été écrit par Woz himself. Et donc, pourquoi Integer? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de nombre à virgule, alors que la tradition en basique, c'était d'avoir des nombres décimaux. C'était plus intuitif pour les non-professionnels. Et sauf que Woz, lui, s'en fichait. Hein, il voulait un truc qui s'interprète vite, qui s'implémente en quelques kilo-octets de ROM. Et donc, il a juste mis des entiers qui sont des mots de 16 bits.
J'avais longtemps entendu parler d'une version francisée du basique. En fait, c'était une mention dans un magazine des années 80. Alors on m'a dit après par la suite, j'ai probablement confondu avec le logo francisé ou encore le LSE et qu'il n'y a pas eu de langage éducatif gravé dans les ROM d'une mécane à l'époque. J'ai cherché, j'ai pas trouvé et je me suis longtemps posé la question si j'ai halluciné. Et non. En fait, vous avez été très fort.
On a retrouvé ça dans l'ordinateur individuel. Grand magazine des années 80.
Années 70.
Enfin, fin des années 70, oui, et qui a duré, je veux dire, jusque dans les années 80.
Oh là là.
Et donc, on a la cassette. La cassette qu'on pouvait acheter lors du SICOB 1980, ou évidemment, par correspondance auprès de l'éditeur, de l'ordinateur individuel. Et donc, ce basicois, qui sonne un peu comme québécois, apparemment aurait été écrit par un québécois. Et ils ont bien aimé l'ordinateur individuel, bien entendu, promoteur de la francophonie, parce qu'à l'époque, la documentation, en général, elle était en anglais, hein, et puis éventuellement francisée par l'importateur. Et les gens, à l'époque, c'était pas courant de parler anglais, donc tu comprenais rien du tout, hein, quand t'avais ton ordinateur. Donc, le basique en français, c'était pas une mauvaise idée. Alors, en fait, ça a été implémenté pour plusieurs ordinateurs 8-bit de l'époque. Là, on a cette cassette sur laquelle il y a deux versions pour les deux différents basiques de l'Apple II. Mmh. Il y a une version pour le Commodore PET qui est l'un des autres tout premiers ordinateurs, micro-ordinateurs fabriqués en raisonnablement grande série en 77, année sainte, où sont sortis donc l'Apple II, le PET et le TRS-80. Et donc, sur cette bande, il y a la version Apple II pour l'Apple Soft Basic, la version Apple II pour l'Integer Basic, la version PET et la version TRS-80, avec des implémentations légèrement différentes, donc un peu de documentation pour chaque version. En fait, ce que c'est juste un patch. C'est un patch du Basic existant qui, en fait, modifie le tokeniseur, le truc qui reconnaît les mots-clés. C'est juste ça.
C'était juste ça.
Oui, ce qui fait que si tu prends tes programmes existants avec leurs mots-clés en anglais, quand ils sont stockés, tokenisés, comme c'était le cas pour beaucoup des implémentations sur tes cassettes ou tes disquettes, tu les charges avec le patch présent, ton programme, il devient français.
Non, je suis en train de regarder justement le lexique du langage. Il y a des mots,
Il y a des mots qui sont vraiment pas intuitifs.
Alors, flash, bon, FN, OK pour fonction, répète, libre, capte, va, vient, va-t'en.
Ça, c'est pour Gossip et Return.
Full camp revient. C'est magnifique.
Et là, tu te dis que c'était pas forcément si utile ou intuitif que ça pour
Oui, parce qu'il fallait taper la commande du coup pour charger depuis la cassette. Et puis, je suppose que quand même, ça devait rajouter des bugs quand même au truc d'origine. Alors, pour le coup, est-ce que vous êtes arrivé à le numériser et à récupérer le...
Donc, on a été obligé de faire un peu de traitement de signal pour arriver à restaurer un peu la cassette. Non, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Il y a juste des bizarreries d'enregistrement. Il fallait mettre le magnétophone en lecture au bon offset sur la bande. Moyennant quoi, l'Apple II a bien voulu digérer le patch basicois pour l'Integer Basic de WOS. On n'a pas encore réussi à faire marcher la version Apple Soft Basic. Ça sera un challenge pour notre prochain événement en Silicium, l'Apple II Festival France qu'on espère faire au mois d'août. Ça sera les devoirs de vacances d'arriver à faire revivre cette version.
En tout cas, c'est littéralement une merveille et donc ben voilà, ben on a une preuve. Encore une fois, c'est quand même assez étonnant ce qu'on arrive à ressortir dans cette émission.
Ce qui est surprenant,
grâce à votre complicité quand même, je vous remercie énormément.
Ce qui est remarquable, c'est qu'une cassette de 1980 finalement est encore lisible par l'ordinateur. Je suis curieux de voir ce que ça donne sur tes CD que t'as gravé en 1999.
Tu parles des CD d'archives de la radio. Oui, il y a que la moitié que j'arrive à récupérer avec les bandes originales de radio éphémère. Mais ils sont disponibles d'ailleurs. Et tant que ça marche en numérique, effectivement, on n'a pas de perte. Moi, j'ai un petit souvenir, effectivement, du lycée. Au lycée, on avait des IBM XT, le premier IBM PC. Et quand on l'allumait et qu'on mettait pas de disquette ou qu'on n'avait pas de disque dur, il bootait en basique. Et c'était instantané. Il travaillait la RAM pendant un certain temps, ça mettait un temps monstre. Pour booter en MS-DOS, ça prenait un temps immonde, il faut compter bien 2 minutes. Mais là, tu l'allumais, s'il n'y avait rien, boum, direct, t'avais le basique. Donc le basique Microsoft, bien plus rapidement en fait que tout autre programme. Et voilà, et t'avais ça sur un IBM PC pour un prix largement supérieur à n'importe quelle autre machine 8 bits. Pourquoi ce Basic a disparu finalement ?
Alors, IBM avait fait ça comme machine, même si c'était hors de prix, c'était quand même une machine pour les particuliers, c'était un micro-ordinateur, donc c'était logique d'avoir un Basic dedans. Et quand des gens comme Compaq et d'autres petits malins se sont rendus compte que c'était pas si difficile d'imiter l'IBM PC qui commençait à marcher commercialement grâce à la marque IBM, parce que c'était que des circuits complètement standards achetés sur étagère, il y avait juste un petit problème, c'est qu'il fallait quand même recréer la ROM qui servait à démarrer l'ordinateur.
Tout ça, on va le raconter, on va faire une histoire justement du PC. Ouais.
Et donc, le basique en ROM de ce premier IBM PC, en fait, il n'y avait pas tant de programmes qui en avaient besoin. Pour lancer les programmes DOS en langage machine, il n'y avait pas besoin de cette ROM. Et donc les cloneurs, quand ils ont fait leur premier clone, ils ont réimité le strict minimum, réimplémenté eux-mêmes le strict minimum, ils n'ont pas réimplémenté l'interpréteur basique de la ROM IBM.
Et voilà.
D'où le message d'erreur.
Et c'est là qu'on va quitter la ROM, et tout ça, on va le raconter dans la prochaine émission. Benoît Triquet, merci beaucoup.